timbré d'une boucle maille au Katanga oriental. J'ai refusé totalement cette
question. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, une émission 100% interactive. Human Rights Watch demande aux autorités de la RDC de mener des enquêtes approfondies et impartiales sur les menaces et les violences à l'encontre des gardes de parc travaillant dans le parc national de Virunga. Cette affaire relance donc le débat dans cette émission sur la sécurité de nos différents parcs nationaux et aires protégées. Avec comme question principale, que pensez-vous de cette demande de Human Rights Watch et que proposez-vous pour améliorer la sécurité des gardes de parc? Vous pouvez participer à cette émission en direct en nous rejoignant à l'adresse pa@radiocapi.net et ou bien nous appeler au 081 890 6315. Noéla Luzitu est à la réalisation, Guy Manzangou à la mise en onde. Cette émission est présentée et coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Vivez en direct la Coupe du Monde de Football Brésil 2014 à la place du cinquantenaire ex-gare centrale et à l'échangeur délimité grâce à la MONUSCO. Chaque soir, suivez tous les matchs sur écran géant. Ensemble, consolidons la paix en RDC au rythme de la fête du football du 2 juin au 13 juillet 2014.
Voilà, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous avons le premier auditeur qui est en ligne, qui va ouvrir les débats de ce matin. Donc Joël Joyeuse, c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, on a des petits soucis déjà avec la ligne de Joyeuse qui est à Butembo. Et nous rappelons que aujourd'hui les débats tournent autour de cette thématique liée ou relative à la demande de Human Rights Watch qui, en fait, plaide pour la sécurité. Des gardes des parcs travaillant dans le parc national de Virunga, et nous étendons les débats donc sur les différents parcs nationaux et aires protégées avec comme question principale, que pensez-vous de cette demande de Human Rights Watch et qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse améliorer sensiblement la sécurité de gardes des parcs? Nous avons Franklin qui est à ligne. Franklin, bonjour.
Bonjour Gilles et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la PS. Par rapport à au sujet d'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une demande qui tombe vraiment à point nommé. Mais moi je pense que la grande difficulté aujourd'hui, c'est par rapport à aux richesses que contiennent nos parcs. Vous allez voir, les parcs ne contiennent pas seulement les espèces animales, mais il y a d'autres espèces, il y a d'autres ressources naturelles que nos parcs regorgent. Et tout ça, ça fait que d'autres personnes puissent avoir des convoitises envers nos parcs. Ça, c'est en fait une difficulté que moi, je pense qu'il faut savoir comment est-ce que ces ressources naturelles-là seront exploitées pour ne pas exposer les gardes de parc aux diverses attaques. D'autres problèmes qui traversent les gardes de parc, c'est la présence des groupes armés. Vous allez voir ici à l'est, c'est parce que vous parlez du parc de Virunga. Et il y a aussi ici à l'est le parc de Kahuzi-Biega, où vous allez voir la plupart des groupes armés ont fait leur base arrière dans le parc de Kahuzi-Biega. Et ça ne facilite pas les gardes, ça ne facilite pas le travail des gardes du parc. Ça fait qu'ils sont exposés à plusieurs attaques de la part de ces groupes armés quand ils sont en train de protéger. Parce que les groupes armés, lorsqu'ils sont dans les parcs, ils doivent se nourrir, ils doivent avoir à manger et ils doivent abattre à certains moments les animaux. Alors ça pose problème lorsqu'ils se confrontent avec les gardes de parc, ça pose des problèmes. Moi je pense qu'il y a deux problèmes majeurs que moi j'ai notés. Il y a en fait la présence des minéraux, la présence des ressources minérales qui créent les convoitises d'autres personnes, mais aussi la présence des groupes armés dans les parcs, ça ne facilite pas le travail des gardes. Mais aussi j'ai remarqué un autre côté, c'est que système de parcs CNE a été abandonné entre les mains des partenaires. Le gouvernement ne s'associe pas beaucoup plus dans la protection des parcs. Ce sont les partenaires qui sont plus, il y a l'ICCN et les autres là, qui sont plus impliqués dans la conservation des parcs que le gouvernement. Il faut qu'il y ait l'implication totale du gouvernement dans la
Franck Clay, quand vous parlez de l'ICCN, l'ICCN c'est un service technique de l'État, l'Institut congolais de conservation nature. Je crois que c'est pratiquement un service, c'est technique de l'État.
C'est un service technique de l'État, mais il faut voir comment est-ce que l'ICCN a été abandonné. L'ICCN n'a pas les moyens
de sa politique.
De sa politique. L'ICCN est abandonné entre les mains des partenaires. C'est ça ce que je suis en train de dire. C'est vrai que c'est un service technique de l'État, mais l'État l'a abandonné au profit des partenaires. C'est ça le grand problème.
Et qu'est-ce que vous proposez concrètement?
Oui, ce que moi je propose, c'est l'implication totale de l'État dans la protection. Il faut mettre fin aux groupes armés, parce que les groupes armés exposent beaucoup plus les conservateurs, les gardes de parc. Les gardes de parc n'ont pas tous les moyens que les groupes armés, ils ont une formation de protection, mais les groupes armés viennent seulement pour essayer un peu de se trouver les refuges dans les groupes. Alors il faut une implication totale du gouvernement, la formation complète, et il faut aussi renforcer le nombre de gardes de parc, parce que très souvent le nombre de gardes de parc est tellement minime par rapport à la superficie.
Alors Franck Clair, parce que vous êtes à Bukavu et dans la proximité d'Ouvira, là où se trouve d'ailleurs ce parc qui fait l'objet d'ailleurs du débat de ces jours, est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur le moyen que disposent les gardes de ces parcs notamment, en ce qui concerne la logistique d'abord, l'outil de travail, est-ce qu'on peut dire que ces moyens mis à leur disposition sont suffisants?
Oui, moi je voulais d'abord corriger et dire que le parc de Kaouzi Diega ne se trouve pas du côté du Vira, ça se trouve du côté des...
Non, je parle du parc de Virunga.
Prenez la route vers Kaouzi-Goma, là, c'est là où se trouve le parc.
Je parle du parc de Virunga. Parc de Virunga, c'est juste sur l'axe. Vous pouvez avoir une idée sur ce qui se passe dans le parc de Virunga?
Oui, autrefois, je disais, sur le parc de Virunga, je n'ai pas trop d'informations là-dessus. Je ne peux pas parler des choses que je ne maîtrise pas très bien.
Mmh. Merci beaucoup, Franklin. Et là, vous déplorez la présence de groupes armés dans les différents parcs nationaux et aires protégées, ce qui fait que l'insécurité bat son plein. Et il y a aussi la convoitise de minerais qui, en fait, se trouverait dans certains de nos parcs. Et aujourd'hui, si l'État ne s'implique pas, selon vous, on risquera de vivre ces cycles d'insécurité dans ces aires pour protéger ou encore dans les différents parcs nationaux. Alors donc, vous demandez à ce qu'il y ait vraiment une implication totale. Il ne faudrait pas qu'on laisse le travail dans son entièreté à l'ICCN qui travaille aux côtés des partenaires. Et ce sont des partenaires qui ne viennent que en appui. C'est vrai qu'ils n'apportent pas la totalité de besoins. Il faudrait que l'État fasse quelque chose pour appuyer l'ICCN. Merci beaucoup, Franklin, d'avoir appelé de Bukavu. Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Vous avez la parole, ingénieur. Quel est votre point de vue?
Oui, Gilles, c'est quand même un sujet assez important. Et vous savez qu'il y a tous les ministères, à mon avis, il y a tous les ministères qui s'occupent de ces domaines-là. Eh bien, mais tout dépend, Gilles, de l'intérêt que le gouvernement porte à tous ces parcs. Vous savez que les parcs, sur notre échelle, ce sont des lieux de tourisme. Alors, nous savons que il y a des pays qui vivent grâce aux recettes générées par le tourisme. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'au niveau du ministère qui s'occupe de ce domaine-là, est-ce qu'ils ont une idée sur les recettes que génèrent tous ces parcs-là? Est-ce que vraiment ces parcs-là apportent de l'argent au trésor public? Si oui, je crois que le gouvernement, au lieu de s'appuyer tout le temps sur les partenaires, doit aussi mettre tous les moyens à la disposition des ICCN pour que ce parc-là puisse être rentabilisé et, disons, apporter un plus au trésor public. Parce que nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour, disons, accroître notre budget national. Moi, je suis un magazine au niveau d'une chaîne de télévision où on montre les gardes de tous nos parcs-là avec une logistique gère, parfois qui me fait rire. Et les interviews qu'on accorde à ces gardes-là expriment une certaine inquiétude. Ils ont des armes, je ne sais pas, même des armes de chasse, mais ça s'apparente pas à ces armes-là. Donc des fusils-là, tout à fait archaïques-là, et même ils disent qu'avec ces fusils, ils ne peuvent pas faire face choses aux bandes armées qui, en fait, dérangent là-bas au niveau des parcs. Donc moi, je crois que au lieu de laisser tout entre les mains des partenaires, des privés, il faut que l'État s'implique. C'est quand même une source importante de recettes. Bon, les ressources naturelles, c'est tout à fait normal. Et lorsque vous avez des potentialités comme ça, il faut que ça soit, en fait, convoité par les gens. Alors, il faut que l'État prenne ses responsabilités. C'est très important. Et aussi, au niveau du Parlement, il faut qu'ils aident aussi l'exécutif. Il faut qu'ils le fassent. C'est leur travail. Nous avons besoin d'argent dans ce pays. Si on doit tout abandonner comme ça, entre les privés. Les privés viennent seulement pour nous accompagner. Mais ils ne peuvent pas se substituer à l'État. Voilà ce que je peux dire à ce stade, M. Gilles.
Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo. Vous partagez l'avis de Franklin, qui a appelé tout à l'heure, de Bukavu, qui a plaidé pour l'implication totale du gouvernement congolais afin de sécuriser nos parcs nationaux et aires protégées. Et vous avez, au fait, noté, vous avez, au fait, signalé que le lieu où les parcs constituent quand même des hauts lieux de tourisme. Et aujourd'hui, avec les deux questions que vous avez posées, la recette que génèrent ces parcs contribue-t-elle au trésor public? Parce que le fait d'avoir vu à la télé la logistique avec laquelle les gardes travaillent pour protéger les parcs, vous êtes vraiment très désolé par rapport à ce qui est mis à leur disposition et vous demanderez qu'on puisse quand même multiplier les efforts pour sécuriser davantage nos parcs. Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo, d'avoir appelé de Kinshasa. Maurice, vous êtes à Kinshasa, vous gardez la ligne. Nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à ces débats en composant les 081 890 6315.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Café Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Voilà, nous avons dans ces studios Monsieur Jean-Joseph Mapilanga, qui est directeur technique et scientifique à l'Institut Congolais de Conservation de la Nature, ICCN. Bonjour Monsieur Jean-Joseph.
Bonjour.
Alors, à ce stade, est-ce qu'on peut avoir la cartographie de nos parcs en ce qui concerne la sécurité des gardes de parcs?
Merci encore une fois de répondre à votre, de nous associer à cette émission que vous appelez Parole des auditeurs. La cartographie en termes de sécurité, elle peut se résumer de la manière suivante. C'est-à-dire, si je prends, je subdivise la répartition géographique des aires protégées, je vais élaboré par rapport au pôle nord-est, c'est-à-dire qui reprend pratiquement le parc national de la Garamba, la réserve des faunes à Okapi, à Ipulu, le parc le Mohoyo, le Mohoyo, Et puis le domaine des chasses qui sont contigus au parc national de la Garamba, c'est-à-dire je dis Gangalana Bodio, Mondomisa, Azande, et les domaines réserves de chasse de Maïka Pengé, et les domaines de chasse de Billy Ouéré, ça c'est pratiquement le bloc ou le pool nord-est. Le pool nord-ouest, ça c'est la Salonga, et Tumbaledima, et réserve d'Ingiri, et Lomako, également la Iongi. Alors, dans la partie maintenant sud, si je prends l'extrême est, ça c'est pratiquement, je prends le parc national de Virunga, je prends le parc national de Kahuzi-Biega, je prends également la réserve naturelle d'Itombwe, le domaine de chasse de la Luama au Sud Kivu. Et ça c'est l'extrême est, et je prends la partie maintenant sud-est, ça c'est le parc national de Kundelungu, le parc national de Upemba, le domaine de chasse de Luama Katanga. Et enfin, je vais prendre la partie extrême, ouest, sud et centre. Et là, je prends le parc marin de Mangrove, domaine de chasse de Mangai, Swakibula, Bushimai, et puis le domaine et réserve de chasse de Bombolumene ici au plateau de Mateke, et puis le domaine le parc national, le parc de la Célé. Voilà un peu plus ou moins la sectorisation d'une manière théorique. Ça me permet d'élaborer en fait la cartographie sécuritaire en fonction de ces blocs. Oui. Et des réalités.
Alors la réalité sécuritaire sur place, parce que le fait que Human Rights Watch vient de plaider pour une enquête approfondie et impartiale sur les menaces et les violences à l'encontre des gardes de parc, c'est ce qui, disons logiquement, fait noter qu'il y a quand même de l'insécurité dans certaines parties de la cartographie.
C'est vrai et c'est réel, c'est-à-dire il y a un problème d'insécurité. C'est parmi une de grandes menaces pour les aires protégées, particulièrement en fait pour les ressources naturelles, c'est-à-dire la faune et la flore. Ici, si je dois aller au but, c'est en fait pourquoi la sécurité, en fait, qui cible les aires protégées, il y a certains qui viennent là-bas pour la recherche de minerais. Il y a d'autres groupes armés qui viennent là-bas pour le braconnage armé, et d'autres groupes armés qui servent en fait de refuge, ou ce qu'on appelle les bases arrière à ces groupes armés. Et qui donc, si je dois parler du bloc par exemple nord-est, ici c'est caractérisé par la présence, plus particulièrement au niveau de la Garamba, c'est le Espela, donc ces rebelles soudanais, qui a fait parcourir les frontières jusqu'à venir, en tout cas se réfugier aux abords du complexe de la Garamba, qui est constitué par le parc national de la Garamba et trois domaines réserves. Et là-dedans, en tout cas, il a été identifié, en tout cas, leurs campements qui sont devenus actifs. À un moment donné, ils étaient devenus presque résiduels, mais en tout cas, depuis les derniers 3-4 mois, en tout cas, il y a des campements qui ont été identifiés en plein complexe du parc national de la Garamba, et particulièrement dans la partie de Mondo Misa, le domaine de chasse de Mombolumene. Ça, c'est les SPLA. Outre là-bas, il y a maintenant les braconniers professionnels qui ciblent, eux, en tout cas, des éléphants particulièrement. Et ceux-ci, ils proviennent aussi du Soudan. Et vous savez que nous partageons autour de 260 kilomètres de frontière avec le sud, le Soudan du Sud, l'état du Soudan du Sud, où pratiquement il y a ce que vous connaissez, le climat politique n'est pas favorable à ce niveau, et que donc il a comme impact, c'est notamment justement cette traversée ou bien ce refuge de ces forces civiques en fait dans sur notre territoire. Et au niveau de la partie encore un peu sud de la Garamba, ça c'est la réserve de faune Okapi qui a été caractérisée par les Simba Maïmaï dans la zone du parc national de la Maïko qui est contiguë aussi, qui disons qui est proche de la réserve de faune Okapi, et ça c'était les forces. Aujourd'hui, il a été mis hors d'état de nuire, M. Sadala, avec grâce aux efforts, en tout cas, de notre armée, mais il y a des résiduels par-ci par-là, mais quand même, la menace, elle a été fortement diminuée, mais il y a juste des forces résiduelles, des éléments résiduels qui sont apparaissent par-ci par-là, et qui, en tout cas, l'armée est en train de les traquer.
Alors, si je comprends bien, partant de ce que vous venez de brosser comme tableau autour de la sécurité dans nos différents parcs et aires protégées, cela nous pousse à imaginer déjà que aujourd'hui nos parcs et donc l'ICSN en particulier ne fonctionnent pas en plein régime.
Non, vu cette insécurité. Non. Je pense que l'ICSN, c'est une des grandes défis, des grandes menaces qu'en fait l'État congolais fait face par rapport à l'existence des aires protégées. Il s'agit de grands défis. Je parle de l'insécurité, mais en dehors de l'insécurité, il faut spécifier aussi ce qu'on appelle le braconnage traditionnel.
Avec
des petits groupes, généralement non fortement armés, et que l'ICSN contrecarre depuis des années dans l'exercice de ces missions.
Mais avec des moyens faibles.
Alors.
Avec des moyens faibles.
Avec des moyens.
Parce que toujours aux côtés des partenaires.
Oui, également. C'est une réalité, mais je crois qu'il y a quand même un effort, et ça, il faut le reconnaître. Bon, autre élément, c'est la convoitise de toutes ces richesses. Donc, ce n'est pas un enjeu qui peut se minimiser. C'est qu'il y a l'insécurité liée à la base arrière, et mais aussi l'ivoire, qui aujourd'hui, par exemple, génère des faux énormes à ces groupes armés. Donc, un kilo d'ivoire, par exemple, dans la partie nord-est de la de périphérie, vous trouverez un kilo d'ivoire qui revient à autour de 300, en fait, sur le territoire national. Rien qu'ici, à Kinshasa, par exemple, l'ivoire revient, se négocie ici sur le marché clandestin, à autour de $500. Et que c'est là, quand les forces négatives se saisissent de telles opportunités, c'est une source de revenus pour se provisionner.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur Jean-Joseph Mapilanga, vous êtes directeur technique et scientifique à l'ICSN. On va repasser à nouveau de l'autre côté du standard pour accueillir Moïris et Akilimani et Jean des Dieux. 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Maurice, vous êtes en ligne, vous avez la parole. Bonjour.
Oui, bonjour, JR.
Votre point de vue.
Est-ce possible de me relancer un peu la thématique, quoi, parce
que je disais tantôt, Human Rights Watch demande aux autorités de la RDC de mener des enquêtes approfondies et impartiales sur les menaces et les violences à l'encontre des gardes de parc travaillant dans les parcs nationaux de Virunga. Alors nous, on s'est dit, cette affaire relance donc les débats sur la sécurité de nos différents parcs nationaux et aires protégées. Et que pensez-vous de cette demande de Human Rights Watch et que proposez-vous?
Je commence d'abord par saluer cette préoccupation, cette demande exprimée par le Human Rights Watch, qui n'est pas pour à sa première préoccupation ou demande. Vous savez, à chaque fois, lorsque une organisation internationale vous interpelle par rapport à un travail qui doit être fait de manière vraiment libre, de manière libérale. Mais à chaque fois, plutôt quand cela se passe, c'est pour dire qu'il y a un déficit quelque part. il n'y a pas une volonté manifeste de faire les choses de la manière rationnelle. On fait ça d'abord, parce que nous sommes dans cette thématique de la demande de Human Rights Watch de faire des enquêtes par rapport à ce qui s'est passé au parc là de Virunga. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment dire par rapport à cette thématique? Moi, je pense que nous devrons être quand même sérieux dans ce pays. Nous devons aimer ce pays. C'est comme hier quand je parlais de la souveraineté. Vous savez, dans ce pays, à chaque fois, lorsqu'on interpelle les gens à rendre justice, à faire des enquêtes, souvent, les discours, le premier discours qui est entendu, c'est la souveraineté. C'est l'indépendance de la justice. Mais lorsque vous allez dans les faits, pour réaliser cette indépendance de la justice, cette souveraineté dont on brandit à chaque fois, mais on ne voit rien. Donc c'est une manière, au fait, de dire que c'est ceux qui ont la charge de la gouvernance de cet État doivent quand même avoir cette... ils doivent quand même s'humilier, hein, savoir s'humilier pour quand même qu'on puisse, qu'ils puissent accepter des critiques qui sont émises de la part de ces organisations internationales. De cette organisation internationale. Les parcs, je viens d'entendre ce que votre invité vient de, nous poser comme situation, comme état de lieu ou comme cartographie de la situation de nos parcs ici. Vous savez, ce pays ici, s'il était vraiment bien géré, comme j'ai vu en Afrique du Sud, le tourisme seul pouvait nous apporter même l'essentiel même du budget du pays. Nous avons un budget maigre, un budget de l'humiliation, de la honte, de 5 milliards ou 4,5 milliards en ressources propres. Alors, pendant que le tourisme ailleurs, même en Afrique du Sud, ça génère beaucoup d'argent. Ça va même au-delà de 10 milliards de dollars américains. Or, un seul parc, selon mes recherches, le parc de Virunga, si réellement il était bien géré et qu'il remplissait les conditions accessibles aux touristes, vous comprenez que ce parc pouvait générer 1 milliard de dollars américains l'an. Et ça pouvait créer jusqu'à plus de 6 400 emplois. Okay. Vous comprenez? Mais les conditions, quelles sont les conditions? Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ce qui s'est passé. Vous avez compris que ces gens-là ne sont pas très bien protégés. Et vous pensez que ceux qui travaillent, qui ne sont pas bien protégés, et comment vous allez attirer les touristes qui peuvent venir pour, par exemple, visiter ces parcs et nous amener des devises au pays? Donc c'est un problème de la gouvernance, c'est un problème de leadership qu'on a dans ce pays. Alors, c'est ça en fait, à chaque fois quand vous m'entendez parler de leadership faible, je ne parle pas juste pour faire plaisir je ne sais à qui, ou bien pour me décharger sur un régime quelconque, mais c'est, je parle c'est parce que quand on compare ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe ici,
Oui. Alors, Maurice, vous avez eu quand même à vous faire une idée par vos multiples voyages effectués sous d'autres cieux. C'est vrai, vous pouvez partager cette expérience avec nous, avec la deuxième question qui, en fait, concerne les propositions. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aujourd'hui pour que nos parcs soient réellement sécurisés et de ce fait qu'ils puissent attirer davantage le bon nombre de touristes et aussi des gens curieux?
En fait, tout part de la politique. Tout part de la politique, de la volonté politique. Je vous dis que tout ce qu'on demande pour ce parc ici, ce sont des conditions accessibles aux exigences de touristes.
Une chose est vraie, Maurice.
Le problème qui se passe, ceux qui dérangent, ceux qui sont là pour saper les actions qui sont menées, par exemple, par des personnes, par des patriotes, par même certains expatriés qui veulent nous aider dans ce secteur-là, ceux qui sapent ces opérations, qui torpillent ces opérations, ces activités plutôt, ce sont des gens qui sont de connivence avec ceux qui sont, par exemple, aux affaires. C'est qui dirige le pays. C'est ça les grands problèmes.
Aujourd'hui, nous sommes parmi les pays qui sont convoités par les partenaires. Aujourd'hui, en tout cas en matière de la conservation de la nature, vous avez, si ma mémoire est très bonne, plus de 10 ou 15, voire même 20 partenaires qui travaillent dans le secteur. Donc on peut dire que si il y avait un leadership rationnel, comme vous l'avez dit, je crois que le résultat sera celui escompté.
Mais c'est tout ce que je suis en train de dire hier. Donc vous êtes en train juste de me compléter. Donc en fait, c'est ça les grands problèmes. Vous avez vu par exemple la protection de l'environnement. Est-ce que c'était vraiment urgent dans ce pays ici qu'on puisse explorer les pétroles dans ces parcs? Est-ce que c'est vraiment opportun? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités qui peuvent générer des fonds, qui peuvent générer des ressources dans ce pays?
Hein? Oui, oui, je crois qu'on va revenir aussi sur ce débat. Oui, Maurice, on va quand même revenir très prochainement sur ce débat. Semble-t-il, Soko s'est désengagé, il a renoncé à l'exploitation. Bon, il y a toute une polémique autour de ça. On reviendra pour élucider un peu la question et on fera un débat sur cette thématique la prochaine fois. Merci beaucoup, Maurice, d'avoir appelé de Kinshasa et surtout d'avoir contribué dans ce débat. Akilimani, vous êtes à Kindu. Bonjour, Akilimani.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à notre invité.
Vous avez la parole.
Merci monsieur de m'avoir accordé la parole. Moi d'abord je me nomme Akilimani Kisanda Denis. Je suis élève en 6e scientifique lié à l'Institut de Tabernacle ici à Kindu. Oui, pour ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, à partir de la déclaration de Human Rights Watch, je salue d'abord cette déclaration. Et vraiment c'est une déclaration qui a une importance énorme. Du fait que la protection de la nature ici chez nous en RDC est souvent bafouée par nos autorités de notre pays. Du fait qu'on ne protège pas notre environnement convenablement. L'insécurité est en train de déranger chaque fois nos parcs, il y a des guerres, ainsi de suite. Nous avons attendu ici, il n'y a pas 2 ou 3 ans, que les animaux des occasions ont été tués par les rebelles de Morga. Bon, tout cela, on ne sait pas à qu'est-ce que le gouvernement est en train de proposer sur ça. Alors, ce sont ces gens de l'environnement qui peuvent nous apporter des revenus pour notre pays.
Pour notre pays, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Akilimani. Merci. Donc là, vous rejoignez vos prédécesseurs. Il faudrait l'implication totale de notre gouvernement. Monsieur Jean-Joseph Mapilanga. Réaction.
Je crois que la réaction est celle-ci. C'est que je voudrais d'abord souligner une chose. C'est que le problème de la question de l'insécurité au sein des parcs, c'est un problème transversal. Et que donc, il ne se limite pas à une, seulement juste les conditions d'accès. Et donc, le réseau d'air protégé en République démocratique du Congo de la Bichou et Kofié à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, c'est tout un océan. Et qu'il y a une nécessité d'avoir plutôt un regard, d'élaborer toutes ces questions liées à la conservation des ressources naturelles d'une manière globale. Et c'est ce qui se traduit par ce qu'on appelle la volonté même du pays. La volonté du pays, c'est notamment la stratégie nationale pour la stratégie nationale pour la conservation de la biodiversité. C'est pratiquement une sorte de bible pour en fait édicter la politique de l'État congolais. Et là-dedans, il y a 9 programmes. Tous les problèmes qu'ils ont énumérés, les auditeurs ici, le problème des leadership, le problème, c'est pas des conditions d'accès, sont déclinés à travers les 9 programmes. Il y a les outils, il faut une planification, il faut une priorisation, il faut impliquer les communautés locales, il faut impliquer les services qui s'occupent des sécurités, qui s'occupent de l'armée, etc. Ça, c'est un premier problème. Voilà. Et deuxième aspect à considérer, c'est que en fait, ce n'est pas Human Rights qui a demandé qu'il a fait au plus chose. Non, c'est elle-même, l'ICCN, avec l'État congolais. En fait, l'ICCN, dans sa gestion quotidienne, en fait, a des dossiers où on défère toute personne qui est présumée, par exemple, coupable du braconnage ou bien de braconnage armé qui a fait avec comme impact des contacts armés où il s'en sort des morts. On a parlé d'un effectif autour de plus de 350 morts. Ce sont des faits réels. Mais il ne suffit pas de dire que non. En fait, l'État congolais se dérobe. Non. Il y a des procès qui sont actuellement en fait en cours par rapport à des incidents qui se sont passés il y a quelques mois, quelques semaines, quelques années dans les parcs. Et l'État congolais en est conscient. Mais il faut reconnaître un pays qui sort de la guerre et un pays qui est en train d'être, qui est entouré pratiquement d'une série d'États où il y a les conflits. Je vous parle de la partie nord-est du pays. Je vous parle des 262 kilomètres que nous partageons avec les Soudans. Mais qui contrôle ces 262 kilomètres? C'est vraiment, vous êtes sur le territoire congolais et puis vous traversez directement le Soudan et où il y a la guerre actuellement. Nous sommes dans un pays, je disais, qui provient de conflits armés avec beaucoup, une trentaine de forces négatives. Et je crois que l'effort actuel qui est concentré, par exemple, la nouvelle que nous avons suivie tous à la presse, c'est que le désarmement volontaire de Abdelaziz, c'est une nouvelle donne à la sécurisation, au rétablissement des conditions sécuritaires, particulièrement au niveau du parc national de Virunga, au niveau du parc national de la Maïko, parce que ces forces étaient épargnées et
très opérationnelles.
Et que c'est une donne qui ne se limite pas seulement aux simples actions. Non, ça demande des actions au niveau local, quelle est la part. Parce que ces forces, ils se réfugient dans des villages. Il faut une volonté locale, implication, non pas que
pour coopérer avec nos forces
qui se déploient jour et nuit, nos forces
et partager les formations.
Ça c'est en amont. Et puis au niveau même national et au niveau international, je vous parle des forces qui chevauchent sur les frontières de notre pays avec d'autres pays. Il faut une stratégie régionale, une stratégie nationale pour buter à or. Et je vous parle de l'ivoire. L'ivoire, ce n'est pas seulement une marchandise qui est vendue localement. Elle va jusqu'en Chine où le kilo se négocie à plus de 1000 dollars le kilo. Et que donc, plus de 1000 dollars, ça c'est un enjeu important.
Un manque à gagner pour le gouvernement, la valeur ajoutée du tourisme dans notre pays.
Oui. L'élément, c'est il parle des leaderships. Donc, le leadership c'est une chose, mais je veux lui dire que l'ICSN, il est pratiquement avec l'appui du gouvernement à terme de formateurs et l'appui des partenaires. Nous avons un vaste programme de formation parce qu'en fait, il ne suffit pas seulement d'équiper, mais il faut former et il faut que les gens soient recrutés selon un critérium sélectif. Ce n'est pas n'importe qui qu'on doit recruter comme personnel de garde. Ça demande un engagement, ça demande un professionnalisme, ça demande vraiment un amour. Un amour où quelqu'un doit vivre continuellement dans la forêt. La conservation, ce n'est pas un métier de villégiature. Non, on vit dans des milieux reculés et il faut d'abord un engagement individuel.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jean-Joseph Mapilanga. On est encore là avec vous. Il est temps de prendre cette troisième série des auditeurs qui veulent intervenir dans cette émission. La thématique, rappelons-la, donc c'est Human Rights Watch qui demande aux autorités de la RDC de mener des enquêtes approfondies et impartiales sur les menaces et les violences à l'encontre des gardes de parc travaillant dans les parcs nationaux du Virunga. Alors nous, dans cette édition Parole aux auditeurs, on a relancé les débats sur la sécurité de nos différents parcs nationaux et aires protégées. Que pensez-vous de cette demande de Human Rights Watch et que proposez-vous pour améliorer les conditions d'accès et aussi la sécurisation de nos parcs et aires protégées? Jean des Dieux, vous êtes à Kikwit et Dr Richard à Kinshasa, Mystère à Kikwit. Je commence par Dr Richard. Dr Richard, vous êtes avec nous. Bonjour Dr Richard.
Bonjour Sierre, bonjour à notre invité, félicitations à tous ceux qui ont parlé, et voici ma modeste contribution. Je félicite l'invité en donnant, parce qu'il a donné les trois groupes de bandits qui sèment la terreur dans nos parcs, mais je l'aide à ajouter deux autres. Il y a ce que moi je peux appeler les populations riveraines. Pourquoi je dis ça? J'avais co-animé une émission sur vos antennes ici. Dans cette émission, il était question de démontrer pourquoi 42% de la population de RDC souffre de la malnutrition chronique et surtout la carence en protéines animales. Cinquième groupe, donc les populations riveraines, ça s'ajoute donc comme quatrième groupe. Cinquième groupe, ce sont les officiels. Nous les soupçonnons pourquoi? le parc de l'Ancelé, gardé par l'AFDEL à l'arrivée de l'AFDEL, était gardé par les officiels. Vous savez que ce parc-là avait des géniteurs pour ressourcer les différents parcs disséminés dans la République. Il y avait même des OPAPI, etc., etc. Ce sont les officiels qui avaient pu ça. Nous les soupçonnons. L'AFDEL était là. Voilà. Alors, comme l'invité avait parlé des groupes chevauchant entre deux pays, des groupes internes, des groupes venant, je ne sais pas, de l'extérieur, venant habiter ici, tel que le Mbororo, etc., nous disons quoi ? Nous disons que le pays ressemble premièrement à un treillis avec des mailles qui ne retiennent rien. N'importe qui peut venir s'abriter ici, demeurer ici et mourir ici comme une personne qui a vieilli. Deuxième chose, donc, nous avons un problème d'insécurité généralisée. Nous sommes un nid de n'importe qui peut venir habiter ici et faire n'importe quoi. Et troisièmement, pourquoi parler sur les antennes des profits que peuvent rapporter l'ivoire ? Nous savons que l'ivoire dans le commerce international. Poursuivons ces bandits. Faisons la traçabilité de l'histoire. Si on attrape le bandit, on l'arrête. On restitue le produit dans le pays. Pourquoi présenter cette faiblesse comme un pays toujours en porte-crise qui doit se mettre à genoux?
Oui,
c'est honteux.
Richard, c'est déjà, Dr. Richard, c'est déjà
oui.
un problème pour mettre la main sur ces éléments incontrôlés, les inciviques, parce que comme l'a dit notre invité, ils sont disséminés oui. dans la population. Il faut vraiment la coopération de la population pour dénoncer, et parce que dans la plupart, c'est vrai, ce ne sont pas que des groupes armés, il y a aussi une catégorie qu'a évoquée oui. notre invité. Donc il faut une coopération de tout le monde, il faut que les gens appuient le gouvernement quand ils mènent de telles actions pour, au fait, traquer et mettre la main sur ces bandits qui, au fait, insécurisent nos différents parcs. Je crois que c'est à cela que nous pouvons aider les autorités à avoir une idée.
Oui.
Pour les cas des officiels,
donc, de
alors pour les cas des officiels que vous avez posé, vous avez évoqué les cas de parc d'Ancelé, c'est pratiquement un cas isolé. C'est un cas isolé
oui.
où vous avez décelé ces cas des officiels.
Un cas isolé, mais qui fait école. Les gens peuvent s'en inspirer.
Mm-hmm.
Vous savez que la population suit les modèles. Nous avons quel modèle Mobutu qui a été primé par le monde entier comme meilleur président qui conserve la nature. Je crois en ce moment ici, il est en train de se retourner mille et une fois dans sa tombe. Tout ce qu'il avait cassé.
Voilà, il ne faut, faut pas non plus oublier d'où nous venons et où nous allons, docteur Richard.
C'est toujours ça la raison.
Oui, je crois que...
C'est toujours ça 54 ans, l'indépendance.
Voilà,
d'où nous venons.
Oui.
Vous savez que les Kenyans,
par exemple... Je n'ai pas besoin de faire un débat avec vous parce qu'il y a...
Les Kenyans n'ont pas le
prix. Oui, le débat c'est avec vous les autres.
Mais il fait beaucoup d'argent.
Oui, voilà, merci beaucoup docteur Richard, mais il faut vraiment retenir que nous venons de quelque part et nous allons quelque part. C'est vrai qu'il y a tout un parcours qu'a connu la République démocratique du Congo sur le plan politique, sur le plan économique et aussi sur le plan de la conservation de la nature. Aujourd'hui, on ne doit pas revenir sur les pillages de 91 et 93 et qui ont donné aussi des résultats que vous connaissez, docteur Richard. Je crois que Jean Desdieu pourrait aussi avoir son point de vue parce qu'il est à Kikwit. Jean Desdieu, vous êtes avec nous?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, vous avez la parole, votre point de vue.
Bonjour, monsieur le journaliste, ici à notre invité.
Merci, Jean Dédier, votre point de vue.
Vraiment, j'ai des préoccupations et le point de vue que je vais énumérer maintenant, où je demande que nous devons nous lever. Les Congolais doivent se lever. C'est le temps où nous devons mettre tout en marche par rapport à la politique. Pour sa sagesse que Dieu nous a donnée, nous devons être fiers de ce que nous avons dans notre pays. Nous ne pouvons pas reconnaître les cas de la pêche. Nous avons vu dans nos lacs, on est en train de pêcher avec des
filets
ou on est en train de faire la destruction des poissons. Que cela n'arrive pas dans les parcs. Bien que nous avons connu des braconnages où on a pillé. Et nous sommes ravis déjà pour entendre encore des okapis qu'on a retrouvés dans la nature. On a quand même besoin que cela soit aussi encadré et sécurisé. J'encourage notre gouvernement, notre État et nos autorités qui sont mieux placées pour ça, d'être très fort et d'assurer le mesure de sécurité, que cela soit fort pour que nous puissions quand même nous retrouver à ce qui concerne l'élevage et nos parcs doivent quand même soient sécurisés. Parce que dans d'autres pays, l'élevage et la pêche, cela constitue un grand potentialisé qui donne quand même l'économie, qui renforce l'économie du pays. Mais chez nous, cela est négligé.
Merci beaucoup, Jean de Dieu.
Nous demandons à nos autorités. J'ai raison, voir le docteur Richard Kinshasa, ouais, qui a dit que c'est d'autres partenaires qui peuvent venir n'importe où ils viennent. Ils s'installent au Congo, ils font n'importe quoi sur ce que nous avons.
Voilà, merci beaucoup, Jean de Dieu. Il faut reconnaître quand même qu'il y a un appui considérable de la part de nos partenaires. C'est vrai, il faut vraiment être dans les secteurs pour comprendre un peu l'impact que cela donne. Mais c'est vrai qu'ils ne viennent qu'un appui. Il faut une contrepartie de la part de notre gouvernement. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les budgets maigres que nous avons, et pour résoudre tous les problèmes à la fois, bon, je crois que là, on va chaque fois nous renvoyer à cette théorie des socialistes qui disent que des problèmes globaux, il faut des solutions globales. Voilà, donc il faut vraiment qu'on travaille très durement dans ces secteurs pour arriver à redorer l'image. Merci beaucoup. Mister, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour les anciens de Marie-Marc.
Vous avez la parole, Mister.
Oui, je suis du territoire de la Songolunda, dans la province de Bandundu, où il y a les réserves de chasse de Chakibula. Vraiment, quand vous constatez dans ces réserves de chasse, il y a presque les animaux endémiques qui se trouvent là-bas. Mais les conditions dont vivent les gardes de chasse ou les gardes de ces domaines de chasse ne coïncident même pas.
Donc quand vous parlez des animaux endémiques, éclairez un peu l'opinion qui nous suit. Hein. Donc vous voulez parler des animaux malades?
Non, c'est pas malade, mais les animaux qui sont seulement dans cet endroit-là, ils ne se trouvent pas ailleurs.
Voilà, donc parce qu'il faudra apporter cette précision, quand on parle de l'endémie, la pandémie, donc on pense que c'est simplement quand il s'agit des maladies. Donc des animaux endémiques.
Voilà, des animaux
qui vivent naturellement là-bas.
Alors, vraiment, vous constatez, ceux qui gardent ce parc-là dorment au village et la nuit, les chasseurs partent tirer tout ce qu'ils veulent et rentrent. Mais ils n'ont pas d'instruments capables qui pouvaient les sécuriser en cas de braconnage. D'abord, ils souffrent même, ils n'ont pas de parapluies, soit des imperméables, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de logement, ainsi de suite. Ils restent au village comme tout autre. Enfin, pendant la journée, ils partent faire leur chant. En fait, la nuit, soit à 15h, ils viennent vivre sur ce domaine de chasse. Mais or, nous avons des espèces de blancs qui cherchent pour venir à entrer dans ce domaine de chasse. Ils entrent et ils sortent sans rien payer. Et parce qu'il n'y a personne qui les contrôle. Parce que nous, quand on continue dans le milieu rural, dans un village, tout le monde est crié. Et comme s'il est autorisé, il vient du président de la République, on ne le contrôle pas et il sort. Mais or, ce sont de l'argent qui est en train de se mettre.
Voilà.
Or, si on encadrait ces paysans-là, soit ces gardes de domaine de chasse, maintenant, ça devrait donner beaucoup d'argent qui devrait servir à la RDC pour construire les écoles et ainsi de suite. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces animaux-là, même moi, je peux quitter, je pars, je prends les oiseaux, je
mets
les
pieds,
je suis tous les rendre nulle part aux personnes qui m'occupent de ça.
Merci beaucoup, Mister. Touténé, vous êtes à Bouniakiri, au sud Kivu. Bonjour, Touténé.
Oui, bonjour, messieurs.
Rapidement, soyez précis, concis, parce que nous n'avons plus assez de temps.
Vraiment, notre parc du Congo sont mal un peu sécurisés parce que nous voyons surtout ici à l'est du Congo le réfugié rwandais, le réfugié ougandais, même les burundais, qui sont réfugiés ici chez nous. Vraiment, ils nous font mal.
Voilà, tout est né. Je crois que tous ces éléments ont été évoqués par vos prédécesseurs. Tous ces éléments ont été évoqués par vos prédécesseurs. Est-ce que vous avez un élément nouveau à ajouter? Ben voilà, alors, on va prendre Victor Mbanzangungu. Victor, bonjour.
Bonjour.
Soyez précis, concis, avec un élément nouveau par rapport à ce que les prédécesseurs ont déjà dit. Victor, vous avez la parole.
Merci beaucoup, précis, concis, je ne sais pas. Ce que je voulais dire est que c'est difficile de pouvoir gérer nos parcs parce que on a du mal aujourd'hui à contrôler même le feu de brousse. Ici, au Bas-Congo, où je me trouve, on a du mal à contrôler les déboisements. Les agents de l'État sont là, les makalas sont vendus. Donc, parler d'une région telle qu'à l'est du pays, déjà le gouvernement est désarmé, c'est vraiment c'est malheureux. Par rapport aux partenaires, moi je pense qu'il y a un effort qu'on doit fournir, parce qu'aujourd'hui, je connais des amis, une fois j'ai pris l'avion avec de la Belgique ici, et qui venaient de la Belgique et qui vont dans un parc où il y a des animaux. Mais ils font beaucoup des études scientifiques sur la biodiversité ainsi que les animaux que nous avons par rapport aux expériences sur la médecine comme en pharmacie. Et ça, malheureusement, parfois l'insu des Congolais, ou les Congolais, les chercheurs congolais ne sont même pas associés. Et c'est pour vous dire que nous devons fournir un effort pour associer les Congolais, mais associer aussi les paysans, associer ceux qui devaient y habiter, qui ont protégé ce parc à l'époque, ces espèces. Les pygmées, par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller au Kivu voir le parc, ce qui s'est passé avec les pygmées à Karoubidiga, mais c'est malheureux. Donc ça, c'est un problème. Il faut réellement qu'on y arrive. La deuxième chose dont je voudrais parler ici, c'est... Combien de temps? Parce que tout à l'heure, Gérard vous disait que d'où nous venons et où nous allons. Mais où nous allons? Et combien de temps il faudrait encore pour que là où nous allions, qu'il y ait vraiment lueur d'espoir? C'est-à-dire que nous venons de très loin, mais nous venons de très loin, mais là où nous allons, on semble ne pas voir vraiment la voie. Donc nous devons prendre conscience, surtout les dirigeants politiques, parce que le peuple se plaint. Le peuple se plaint et beaucoup des armes qui circulent dans le milieu de parc, mais ce sont des armes qui viennent de nos autorités. Il y en a des rapports qui les ont cités. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la Chine qui va acheter, par exemple, nos minerais, en fait, comment on appelle ça? Oui, nos minerais, mais aussi l'ivoire. Mais nous avons la coopération avec la Chine. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les démarches et les stratégies entreprises auprès du gouvernement chinois par rapport à cette vente illicite, par exemple, de l'ivoire? Donc voilà ce que je voulais dire, mais c'est malheureux tant qu'on n'arrivera pas à connaître la valeur de ce que représente ce parc. Et là, malheureusement, je pense que le gouvernement, il ne faudrait pas se dire, nous évoluons. Tous les débats que nous faisons sur Radio Okapi ici, nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a faillite de l'État. Nous devons le dire, il y a faillite de l'État.
Merci
il faudrait
beaucoup.
Que tous les Congolais prennent conscience.
Merci beaucoup, Victor, d'avoir contribué dans cette émission avec votre cœur, avec votre passion. Merci beaucoup. Mais notez que quand on impute quelque chose aux autorités, donc je crois qu'il faut vraiment avoir des preuves. Hein. Sinon, bon, nous, on sait qu'il y a des rapports et si vous nous brandissez ces rapports, noir sur blanc, bon, c'est discutable aussi. C'est un travail scientifique. Merci beaucoup, Victor. Victor Kirongozi, on va terminer avec vous. Juste un mot en une minute et puis on va clôturer avec les auditeurs. On va conclure avec notre invité. Kirongozi, bonjour. Vous êtes à Dungu.
Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir encore donné la parole. Et puis, je vous souhaite vraiment que vos carrières soient fructueuses parce que le temps nous filme. Voilà, je vais dire à ce qui concerne le parc de Garamba parce que tous mes prédécesseurs ont déjà tout dit. Il faut savoir que notre parc de Garamba gorge beaucoup encore de groupes armés. Prenons l'exemple des CPLA, de Soudan, y compris les LRA. Bon. Il faut savoir que les groupes armés sont dotés des armes lourdes et très fortes. Mais tandis que notre garde-parc n'ont pas des armes qui vont faire
passer
à
des
groupes armés qui est bien doté des armes. Bon, ce que je peux dire, il faut que notre gouvernement puisse doter même des hélicoptères et des armes lourdes.
Voilà, merci beaucoup. Il faut mettre du paquet pour sécuriser nos parcs et air protégés. Monsieur Jean-Joseph Mapilanga, vous êtes le directeur technique et scientifique à l'ICSN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Vous avez suivi cette dernière série. Comment réagissez-vous par rapport à leurs interventions et qu'est-ce que vous nous avez comme conclusion?
Merci. Par rapport à leur réaction, je suis tout à fait d'accord par rapport aux besoins d'équipement du personnel des gardes. C'est un problème réel que l'ICSN versus les gouvernements, qui est pratiquement le souverain des aires protégées, en tout cas en est consciente, et les démarches sont en train d'être toujours faites, et il y a un effort qui est en train d'être fait. Et ce que je voudrais souligner à l'intention de nos auditeurs, c'est que les parcs nationaux constituent presque autour de 15% du territoire national. Donc, ce n'est pas juste 2 ou 3 aires protégées. Donc le gouvernement ou l'ICSN fait face à un réseau important qui a fait une multiplicité de problèmes et qui demande ce qu'on appelle une priorisation. Donc il y a un problème de priorisation. Et que, un autre élément, c'est la sensibilisation. Donc ce n'est pas un problème dévolu à l'État congolais ou à l'ICSN lui-même, mais il faut, au niveau déjà de la base, l'intérêt particulier pour sauvegarder. Et vous avez évoqué plus bien avant là, quelle est la quote-part des populations riveraines dans la dénonciation, par exemple, de ces inciviques, de ces forces négatives, de ces braconniers, parce qu'ils ont comme refuge, ils ont comme pisteurs, ils ont comme guide, en fait, des populations riveraines. Ça, c'est un effort qui doit se faire à un niveau local et qui doit interpeller chacun des Congolais qui vit en périphérie des aires protégées. J'ai parlé des actions transversales. Il y a l'armée, il y a les services qui travaillent au poste frontalier. Il a parlé des ivoires. Les ivoires, c'est une ressource, mais il y a un effort qui est en train d'être fait au niveau, par exemple, de certaines provinces. Il y a la province, par exemple, orientale, qui, où le gouverneur a pris une décision interdisant, par exemple, les trafics de l'ivoire au niveau du marché local. Et au niveau de maniement, on a pris des décisions. Donc ça, ce sont des actions, des accompagnements à la lutte anti-braconnage par rapport aux autres institutions qui doivent accompagner, en fait, l'ICSN dans sa mission. Donc des actions transversales qui demandent, nous venions de saisir un lot important d'ivoire au niveau de l'aéroport d'Ingili et on a condamné le Chinois. Ça, ce sont des actions phares et vraiment importantes qui, en fait, demandent des interventions. L'ICSN n'est pas basé à l'aéroport d'Ingili. Il a travaillé à connivence avec les services qui sont au Mozambique. Et ça demande pratiquement une synergie des actions. Autre élément important, c'est maintenant l'appui en équipement. Voilà, en conclusion, ça demande, un, une sensibilisation au niveau de la base. Je donne un exemple, tous ces journalistes et tous les journaux, non seulement pas se focaliser sur, je ne sais pas, les produits publicitaires manufacturés, mais qu'on insère l'intérêt de la conservation. Deuxième élément, c'est que pratiquement la mobilisation, en fait, dans le cadre de la lutte, c'est la dénonciation. Il faut arriver à dénoncer. Et un appui réel en termes d'équipement, en termes de moyens financiers de la part du gouvernement congolais pour appuyer les efforts actuels.
Jean-Joseph Mapilanga, vous êtes directeur technique et scientifique à l'ICSN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir fait le déplacement de ce studio.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
Voilà, c'est par ici que nous bouclons ce programme qui a été réalisé par Noël Alouzitou, aux côtés de Guy Manzangou, une émission produite et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Gakar. On se retrouve demain pour un autre numéro.